Chapitre 13. Conscient des ennuis qu'il risquait de s'attirer s'il attendait les bras ballants l'arrivée de la charrette, Fitch prit une brassée de bûchettes de pommier et courut la déposer dans la cuisine. Dans sa hâte de ressortir, il laissa bruyamment tomber sa cargaison dans le coffre à bois. Avec le vacarme des conversations et des disputes, le crépitement des légumes et des viandes dans les poêles, le souffle des flammes d'une myriade de feux, le tintement des cuillères dans les coupes, le martèlement des pilons contre les mortiers et le grincement des brosses de fer sur les chaudrons, personne n'entendit le bruit pourtant incongru qu'il produisit. Quelques morceaux de bois s'écrasèrent à côté du coffre. Fitch songea un moment à les laisser où ils étaient, mais quand il vit Maître Drummond non loin de là, et il jugea plus prudent de les ramasser. Quand il eut fini, il sortit en trombe et eut le souffle coupé lorsqu'il vit qui tenait la longe de Farfadet. C'était elle. En se tordant les mains de nervosité, Fitch regarda la jeune fille entrer dans la cour à côté du cheval. Son manège ayant enfoncé plus profondément l'écharde, il fit la grimace, jura à voix basse, puis referma la bouche en espérant que Beata n'ait rien entendu. En secouant la main pour apaiser la douleur, il approcha de la charrette. « Bonjour, Beata !» La jeune fille leva à peine les yeux. « Fitch !» Le garçon chercha quelque chose à dire. Ne trouvant rien d'intéressant, il se tut pendant que Beata, d'un claquement de langue, ordonnait à Farfadet de reculer. La longe dans une main, elle posa l'autre sur le poitrail du cheval pour le rassurer pendant qu'il lui obéissait. Fitch aurait donné tout l'or du monde pour qu'elle le touche avec autant de tendresse. Les courts cheveux roux de Beata, si doux et lustrés, ondulaient doucement sous la caresse de la brise. Fitch attendit près de la charrette en silence. S'il disait quelque chose d'idiot, comme ça lui arrivait souvent quand il était intimidé, Beata le prendrait pour un crétin congénital. Et s'il passait une bonne partie de son temps à penser à elle, il aurait parié qu'elle ne lui consacrerait jamais une seconde de réflexion. Bien obligé de se résigner à n'être pas grand-chose pour elle, il refusait qu'elle garde de lui l'image d'un attardé mental. Pourquoi n'avait-il pas une nouvelle intéressante à lui révéler pour l'impressionner? Des potins auraient suffi, mais aucun ne lui venait à l'esprit. L'air absent, Beata revint près de la charrette. « Tu t'es fait mal à la main ? » demanda-t-elle. La sentir si près de lui paralysa le pauvre Fitch. Au gré de la brise, sa longue robe bleu marine ondulait sur ses hanches d'une manière qui lui donnait des frissons dans le dos. Une série de boutons en bois usé courait sur le devant du vêtement, dont une épingle à la tête en spirale tenait le col fermé. Une vieille robe alourlée et filochée, passée de mode et ternie. Après tout, Beata était une akène, comme lui, et elle ne méritait pas mieux. De toute façon, même mal fagotée, elle gardait un port de reine. Avec un soupir agacé, elle prit la main de Fitch pour l'examiner.
« Ce n'est rien, marmonna-t-il, juste une écharde. »
Beata lui retourna la main, paume vers le haut, puis pinça la peau pour déterminer à quelle profondeur était l'écharde. Submergé par la douceur de ce contact, Fitch s'aperçut avec terreur que ses mains, à force de tremper dans de l'eau savonneuse, étaient plus propres que celles de la jeune fille. En voyant ça, il risquait de croire qu'il tirait sans arrêt au flanc.
« J'étais de corvée de vaisselle, » expliqua-t-il. « Et puis j'ai dû aller chercher du bois, des bûches très lourdes. » C'est pour ça que je suis en sueur. »
Sans dire un mot, Beata s'empara de l'épingle de son col, qui s'ouvrit assez pour dévoiler la naissance de ses seins. N'en croyant pas ses yeux, Fitch en resta bouche bée. C'était la première fois qu'il apercevait ce que la jeune fille cachait d'habitude, et il y avait de quoi défaillir. Mais il ne méritait pas qu'elle s'occupe de lui, et encore moins qu'elle lui montre, même involontairement, de telles merveilles. Honteux, il détourna les yeux. Fitch ne put s'empêcher de crier quand l'épingle s'enfonça dans sa chair. Concentrée à l'extrême, Beata marmonna de vagues excuses et continua à traquer impitoyablement l'écharde. Pour ne pas grimacer de douleur, Fitch plia et déplia frénétiquement ses orteils nus en attendant la fin de l'intervention. Il tressaillit quand il eut le sentiment qu'on venait de le piquer à l'envers. Beata examina un court instant l'écharde qu'elle avait retirée de sa chair, puis elle la jeta dans la poussière. Après avoir refermé son col, elle y repiqua l'épingle.
« Et voilà,
dit-elle en se tournant vers la charrette.
« Merci, Beata. C'était très gentil à toi. Maintenant, je vais t'aider à décharger. »
Fitch s'empara d'un quartier de bœuf et se baissa pour le hisser sur son épaule. Sous le poids, ses genoux manquèrent se dérober. Quand il eut réussi à se redresser, il vit Beata devant lui se diriger vers la porte de la cuisine avec un gros filet rempli de poulettes dans une main et un demi-mouton sur l'autre épaule. Maigre consolation, elle ne devait pas l'avoir vu se ridiculiser pour soulever son quartier de bœuf. Quand ils furent à l'intérieur, Judith, la responsable des achats, ordonna à Fitch de dresser une liste de tout ce que le boucher avait fait livrer. Il s'inclina, promit qu'il n'y manquerait pas, mais frémit intérieurement. Lorsqu'il fut retourné près de la charrette, Beata fit l'inventaire de la commande à la place du jeune garçon. Bien entendu, informée qu'il ne savait ni lire ni écrire, elle tapota chaque article en prononçant son nom à haute et intelligible voix. Comme il devrait apprendre tout ça par cœur, autant lui faciliter la tâche. Il y avait un porc, un mouton, un bœuf, un castor, trois pots de moelle, 8 outres de sang frais, un demi-tonneau d'estomac de cochon à farcir, 2 douzaines d'oies, un plein panier de pigeons et 3 filets remplis de poulettes en comptant celui qui était déjà à l'intérieur.
« Je sais que je l'ai mis quelque part. »
Beata écarta un panier comme si elle cherchait quelque chose.
« Voilà. Un moment j'ai cru les avoir oubliés. Un sac de bons moineaux bien gras. » Le ministre de la civilisation en veut toujours quand il donne un banquet.
Fitch sentit qu'il s'empourprait. Les hommes mangeaient la chair de ces oiseaux ou leurs œufs pour stimuler leur virilité défaillante. Il se demandait bien pourquoi, car la sienne aurait plutôt eu besoin du traitement inverse. Quand Beata le regarda dans les yeux pour voir s'il avait ajouté les moineaux à sa liste mentale, il se sentit obligé de dire quelque chose, n'importe quoi, pour changer de sujet.
« Beata, tu crois que nous serons un jour absous des crimes de nos ancêtres ? Oui, aurons-nous jamais le cœur aussi pur que les Andériens ?»
La jeune fille fronça les sourcils.
« Nous sommes des Haken, Fitch. La perfection des Andériens est hors de portée de nos âmes corrompues. Eux, ils sont si purs que le mal ne saurait les souiller. Nos crimes ne seront jamais vraiment lavés, mais nous pouvons espérer contrôler notre méprisable nature. »
Fitch connaissait la réponse aussi bien que la jeune fille. En posant une question aussi basique, il venait de se donner l'image d'un parfait ignorant.
Dès qu'il tentait d'exprimer ses pensées, il était incapable de les formuler sans se ridiculiser. Il désirait s'acquitter de sa dette, en d'autres termes, obtenir l'absolution, et gagner le droit de porter un nom d'honneur. Peu de Haken pouvaient se vanter d'avoir gagné ce privilège, et cela lui semblait pourtant indispensable s'il voulait un jour être libre. Alors qu'il réfléchissait à la manière de nuancer sa question, il baissa humblement la tête. « Je voulais dire, eh bien, après tellement de temps, n'avons-nous pas fini d'apprendre des erreurs de nos ancêtres ? Ne voudrais-tu pas avoir un jour plus d'emprise sur ta propre vie ? Je suis une Haken, donc un être indigne de décider de sa destinée. Tu devrais savoir que le mal t'attend au bout de ce chemin. »
Fitch massa pensivement la petite plaie dont Beata venait de retirer les chardes.
Mais certains Haken se sont engagés sur des voies qui mènent à l'absolution. Leur abnégation leur vaudra un jour le salut. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu voudrais entrer dans l'armée. J'aimerais bien le faire aussi. Tu es un mâle. Porter des armes t'est interdit. Encore une chose que tu devrais savoir. « Je ne voulais pas dire que... Je le sais, bien entendu. C'est juste que... Ah, bon sang, je n'arrive pas à m'exprimer. »
Fitch glissa les mains dans les poches de son pantalon.
« Je voudrais pouvoir devenir soldat, agir pour le bien et prouver que je vaux quelque chose. Bref, aider ceux que nous avons tant fait souffrir. »« Je comprends. »
Beata désigna les fenêtres des étages supérieurs.
Le ministre de la civilisation a promulgué lui-même la loi qui autorise les Haken à servir dans l'armée, comme les Andériennes. Cette loi précise aussi que tout le monde doit respecter ces Haken-là. La compassion du ministre n'exclut personne et mes sœurs et moi lui devons beaucoup.
Fitch enrageait intérieurement.
Comme d'habitude, il ne parvenait pas à exprimer sa pensée. « Mais ne voudrais-tu pas te marier et... »
« Le ministre, » coupa Beata, « a également imposé que les Haken aient un travail,
afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et ne soient pas contraintes de devenir, à travers le mariage, les servantes des hommes de leur race. Car il est dans leur nature de réduire les autres en esclavage, y compris leurs épouses. Pour les Haken, le ministre Chanbour est un héros. Il devrait l'être aussi pour les Haken comme toi, car il vous a apporté la civilisation. Grâce à lui, vous avez abandonné vos comportements belliqueux pour vous intégrer à une communauté de gens pacifiques. Je m'engagerai peut-être dans l'armée parce que c'est un moyen pour une Haken de devenir digne de respect. C'est la loi du ministre Chanbour.
Fitch se serait cru à une réunion de repentance.
Je te respecte, Beata, même si tu n'es pas dans l'armée. Et je sais que tu feras le bien avec ou sans uniforme parce que ton cœur déborde de bonté.
La jeune fille haussa modestement les épaules. Quand elle reprit la parole, ce fut d'une voix beaucoup plus douce.
« C'est pour ça que je veux servir dans l'armée, aider les autres et faire le bien. Tu vois, nous avons au moins un point commun. »
Fitch aurait aimé être à la place de Beata. Dans l'armée, elle aiderait la communauté à affronter toutes les difficultés imaginables, des inondations jusqu'aux famines. Les soldats assistaient tous ceux qui étaient dans le besoin. Voilà pourquoi on les respectait. Et ce n'était plus du tout comme par le passé où être militaire pouvait se révéler dangereux. Les Dominie Dirch avaient changé tout ça. Si on les déchaînait contre un ennemi, elles pouvaient le vaincre sans que les soldats aient besoin de se battre. Par bonheur, les Dominie Dirch étaient sous le contrôle des Andériens désormais, et ils les utilisaient pour préserver la paix, pas pour nuire intentionnellement à d'autres peuples. Les Dominie Dirch étaient la seule création Haken à laquelle les Andériens recouraient. Sans doute parce qu'ils n'auraient jamais pu fabriquer eux-mêmes un tel fléau. Dotés de cœurs trop purs, comment se seraient-ils abaissés à avoir les ignobles idées requises pour imaginer une arme de ce type? Seuls les Haken étaient assez pervers pour le faire.
« Je peux aussi espérer être engagé ici, comme toi, » ajouta Beata.
Fitch leva les yeux et constata qu'elle regardait les fenêtres du deuxième étage. Il faillit dire quelque chose, mais se ravisa.
« Il est venu chez Inger un jour, »
continua Beata sans lever les yeux.
« Et je l'ai vu comme je te vois. Bertrand, je veux dire le ministre Chanbour, est bien plus séduisant que mon patron. »
Fitch ignorait comment on déterminait le charme d'un homme. En tout cas, il ne comprenait pas que les femmes fassent la roue devant des types qu'il trouvait quelconques. Le ministre était grand et il avait dû être beau, mais ses cheveux noirs d'Andérien commençaient à grisonner. Aux cuisines, toutes les femmes n'en avaient que pour lui. Quand il lui arrivait d'y faire un tour, elles s'empourpraient et certaines s'éventaient le visage en soupirant. Pour Fitch, ce vieil avantageux avait quelque chose de répugnant.
« Tout le monde dit que le ministre est un homme formidable, » s'extasia Beata. « Tu l'as déjà vu? Tu lui as parlé? Il paraît qu'il s'adresse aux Haken comme s'ils étaient des gens normaux. Partout on le couvre de louanges. Certains Andériens disent même qu'il sera le prochain pontife. »« Je l'ai vu une ou deux fois, »
répondit Fitch en s'adossant à la charrette.
Il ne jugea pas utile de préciser que le ministre, lors d'une de ses visites, l'avait giflé parce qu'il venait de laisser tomber sur ses belles chaussures un couteau à la lame poisseuse de beurre. Une punition méritée, il en convenait.
Il regarda Beata, qui contemplait toujours les fenêtres.
Pour sa part, il préféra baisser les yeux sur les ornières que la charrette avait laissées dans la boue.
« Tout le monde aime et respecte le ministre de la civilisation. Je me réjouis de travailler pour lui, même si j'en suis indigne. » Donner du travail aux Haken pour qu'ils ne crèvent pas de faim est une preuve indéniable de sa noblesse d'âme.
Beata regarda soudain timidement autour d'elle, puis s'essuya les mains sur sa robe.
Inlassable, Fitch tenta une nouvelle fois de la convaincre de ses bonnes intentions.
« J'espère faire le bien un jour, contribuer au salut de la communauté et aider les autres. »
La jeune Haken approuva gravement du chef.
Encouragé, Fitch leva le manteau. « Je voudrais payer ma dette. » et avoir le droit de porter un nom d'honneur. Alors j'irai dans la forteresse du sorcier, en Aydindril, et je demanderai qu'on me nomme sorcier de vérité. Armé de l'épée de vérité, je reviendrai pour défendre les Andériens et faire le bien autour de moi. »
Beata battit des paupières, puis éclata de rire.
« Tu ne sais même pas où est Aydindril, et combien de temps il faut pour y arriver ?» On doit d'abord aller au nord, marmonna Fitch, puis à l'est.
On dit que l'épée de vérité est une arme magique. Tu ignores donc que la magie est impure et maléfique?
Au fait, que sais-tu à son sujet?
Eh bien, à peu près rien, je crois.
Tu es ignare en matière de magie, et si tu tenais une épée, tu te couperais les doigts de pied.
Beata se pencha, prit un filet de poulette et le panier de pigeons, et se dirigea vers la cuisine sans cesser de rire.
Fitch aurait voulu mourir. Il lui avait confié son rêve le plus secret, et elle s'était esclaffée.
Il baissa la tête, accablé. Beata avait raison. Étant un Haken, il n'aurait jamais l'occasion de prouver sa valeur. Il garda les yeux rivés sur le sol et ne dit plus un mot pendant qu'il déchargeait la charrette. Quel idiot il était! Il n'aurait pas dû trahir son secret, mais il n'y avait aucun moyen d'effacer des paroles.
Soudain, Beata lui prit le bras et s'éclaircit la gorge. Il baissa de nouveau les yeux, certain qu'elle allait encore se moquer de lui.
« Je suis désolé, Fitch. Ma mauvaise nature de Haken m'a poussé à te blesser. J'ai eu tort de te dire des choses aussi cruelles. »
« Non, tu avais raison de rire.
Fitch, nous avons tous des rêves impossibles. Cela fait partie de notre souillure héréditaire. Nous devons apprendre à être meilleurs que ces songes creux. »
Le jeune Haken releva les yeux.
« Tu as aussi des rêves secrets? Des choses que tu voudrais voir se réaliser?
Comme ton désir idiot de devenir le sourcier de vérité? »
Fitch hocha la tête.
« Eh bien, il serait juste que je t'en parle pour que tu puisses rire à ton tour. »«
Je ne rirai pas, » souffla Fitch.
Mais Beata ne le regardait plus et il n'aurait pas juré qu'elle l'avait entendu.
« J'aimerais apprendre à lire. »
Elle jeta un coup d'œil au jeune Haken pour voir s'il s'esclaffait.
« J'en ai rêvé aussi, »
dit simplement Fitch. Il regarda autour de lui, craignant qu'on les épie, mais il ne vit personne. Se penchant en avant, il traça du bout de l'index un étrange dessin dans la poussière qui tapissait le fond de la charrette. La curiosité de Beata fut plus forte que sa désapprobation.
« Tu as écrit ?»« Un mot, oui. Je l'ai appris. C'est le seul que je connais, mais je peux l'écrire et le lire. Lors d'un banquet, j'ai entendu dire qu'on le voyait sur la garde de l'épée de vérité. »
Fitch traça une ligne sous son mot.
« L'homme du banquet l'avait gravé dans du beurre pour le montrer à une invitée. Il veut dire « vérité ». Il a raconté que les sourciers étaient jadis des hommes de bien, que tout le monde respectait.
Aujourd'hui, affirmait-il, ils ne sont plus que des criminels de droit commun, au mieux, et des assassins dans le pire des cas, comme nos ancêtres.
« Comme tous les Haken, »
corrigea Beata.
« Nous compris. »
Fitch ne protesta pas car elle avait raison.
C'est aussi pour ça que je veux devenir le sourcier. Je rétablirai sa réputation pour que les gens puissent de nouveau croire à la vérité. Oui, je leur montrerai à tous qu'un Haken peut être honorable et servir le bien. Tu ne trouves pas que ce serait positif? Une manière de compenser nos crimes?
Beata regarda nerveusement autour d'elle.
Ton rêve est absurde et enfantin,
dit-elle. Elle baissa le ton pour appuyer son effet.
« Apprendre à lire est un crime. Tu ne dois jamais recommencer. »« Je sais, mais n'as-tu pas dit que... »« Et la magie est une abomination. Toucher une de ses créations serait aussi grave qu'un crime. »
Après avoir jeté un coup d'œil à la façade de briques derrière elle, Beata effaça le mot écrit par Fitch.
Il voulut s'en indigner, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. « Il faut finir de décharger, maintenant. »
Du coin de l'œil, Beata incita Fitch à lever les yeux sur les fenêtres du deuxième étage. Le jeune Haken le fit et sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Derrière une vitre, le ministre de la civilisation en personne les observait. Fitch s'empara d'un panier et se dirigea vers le garde-manger de la cuisine. Beata le suivit avec une demi-douzaine d'oies dans une main et le sac de moineaux dans l'autre. Ils finirent le travail en silence. Le jeune Haken regrettait d'en avoir trop dit, et il déplorait que Beata ne lui ait pas ouvert davantage son cœur.
Quand ils eurent terminé, il voulut retourner près de la charrette sous prétexte de vérifier qu'il n'avait rien oublié, mais Maître Drummond interrogea Beata, qui lui confirma que tout était là. Tapotant la poitrine de Fitch d'un index méprisant, le chef de cuisine le renvoya à la plonge. Les côtes douloureuses, le garçon trottina jusqu'au baquet d'eau savonneuse. Avant d'y replonger les mains, il tourna la tête pour regarder sortir Beata. Avec un peu de chance, elle le remarquerait et lui ferait un petit sourire en guise de revoir. Mais l'assistant du ministre Chanbourg, Dalton Campbell, venait d'entrer dans la cuisine. Si Fitch ne lui avait jamais parlé, au nom de quoi un homme si important se serait-il intéressé à lui, il avait une très bonne opinion de ce haut personnage qui semblait, selon les rumeurs, n'avoir jamais fait de tort à quiconque. Récemment promu au poste d'assistant, Campbell était un gaillard plutôt bien bâti, qui arborait les signes particuliers typiques des Andériens, un nez très droit, des cheveux et des yeux noirs et une mâchoire carrée. Les femmes, et surtout les Haken, paraissaient trouver attirantes ces caractéristiques physiques. Et l'assistant faisait forte impression avec le pourpoint bleu foncé qu'il portait sur une tunique de la même couleur, un écrin parfait pour une série de boutons en étain. Un fourreau orné de fils d'argent pendait au splendide ceinturon de Campbell. L'épée qu'il contenait ne devait pas être uniquement ornementale, si on en jugeait par sa garde enveloppée de cuir rouge foncé, un petit truc de guerrier expérimenté pour avoir une meilleure prise. Fitch aurait donné cher pour porter une arme pareille. À son avis, toutes les femmes étaient folles d'un homme ainsi équipé. Avant que Beata ait pu sourire à Fitch ou passer la porte, Campbell approcha d'elle et la prit par un bras. Alors que la jeune fille blêmissait, le jeune Haken sentit ses entrailles se nouer. De gros problèmes s'annonçaient, et il en connaissait la cause. Si le ministre l'avait vu écrire sur le bois poussiéreux de la charrette... Dalton Campbell, sourire aux lèvres, parla avec la tranquille assurance des hommes de pouvoir. Voyant Beata se détendre, Fitch se sentit tout de suite mieux. S'il n'entendait pas tout, il capta les mots « ministre Chanbourg » et vit l'assistant tourner la tête vers l'escalier au fond de la cuisine. Beata écarquilla les yeux de surprise, rosit, puis eut un sourire éclatant. Campbell ne lui lâcha pas le bras et la guida jusqu'au pied des marches. À l'évidence, la jeune Haken n'aurait pas eu besoin de cet encouragement, car elle semblait enthousiaste. Sans un regard en arrière, elle s'engagea dans l'escalier et disparut de la vue de Fitch, qui reçut sur la nuque une claque magistrale.
« Fichtre, tu as fini de bailler aux corneilles? Va me nettoyer ses poils !»